Stockgeiger, non seulement par rapport à la qualité de la recherche qu'il conduit, mais en même temps aussi avec ses collègues, l'animation et la diffusion d'une connaissance en matière de propriété intellectuelle qui est un sujet clé pour la création de valeur dans nos économies, mais en même temps aussi un sujet clé sur la façon dont nous considérons la valeur des biens. José disait à l'instant le refus de la marchandisation du monde et de tout ce qu'il produit. Il faut des règles pour cela, et l'expérience qui est la mienne m'a conduite à connaître plusieurs étapes du débat sur les questions de propriété industrielle ou propriété intellectuelle, avec les premiers débats qui ont permis à Jack Lang de défendre l'exception culturelle. Et j'en dis tout de suite un mot, la manière dont on négocie les traités internationaux relève d'une méthodologie particulière. Avant de parler de leur contenu, on a une culture des négociations. Les Américains ont une vision large, englobante, et de ce point de vue, terriblement efficace. Ils n'annoncent pas l'objectif de leur stratégie, ni le détail des négociations. Il est donc extrêmement compliqué de connaître la manière de faire et de savoir de manière assez complète où sont les pièges et quelle est votre marge de manœuvre. Cette technique englobante est une technique qui fonctionne par inclusion-exclusion. Inclusion, ceux qui partagent le même point de vue sont dedans, ceux qui ne le partagent pas sont dehors, et on voit qu'avec aujourd'hui le président Trump, c'est particulièrement vrai, dans les décisions qu'il vient de prendre, qui excluent, évidemment, sous peine de payer des droits de douane importants, toute une partie, je dirais, des industries du continent européen, et d'autres d'ailleurs. Donc, dans les premières discussions qui ont permis de mettre en œuvre un concept qui est l'exception culturelle, la discussion était portée sur les investissements et le risque de confondre le cinéma et l'audiovisuel avec des biens de production marchande. Cette exception n'est pas que comme beaucoup de Français l'ont parfois considéré, parce que les Français se croient exceptionnels, n'est-ce pas ? Bon, mais des fois, ils sont un peu arrogants, chacun le sait. C'était une technique juridique qui consistait à dire, puisqu'on définit de manière englobante et générique les services, et que dans les services, on inclut les services audiovisuels, donc les programmes de télévision, les vidéos, les films, etc., il faut pratiquer ce que l'on appelle l'exception. C'est-à-dire la sortie de la discussion de la négociation. Donc on a, en fait, dans les négociations, à la fois, au départ, une liste de ce qu'on accepte de discuter, et puis on cherche à mettre les verrous, et en particulier sur les biens culturels. C'est ce qui nous a valu des discussions extrêmement vives, après la première étape, avec le refus de l'AMI. J'appartenais au gouvernement de Lionel Jospin qui a refusé l'accord multilatéral sur les investissements, puisque précisément, il était trop large, trop peu garant des intérêts français et des intérêts européens. À l'époque, nous n'avions pas, et j'ai participé à ces réunions, et en particulier à la mobilisation qui a eu lieu à Seattle, les Américains ont fait connaître leur volonté de ne pas discuter des questions culturelles et audiovisuelles. Néanmoins, nous savions que si ce traité était adopté selon les intentions américaines, il manquait peu de choses pour que, au fond, tout cela soit purement et simplement, étendu à ces activités et cette création. Donc la question du droit d'auteur est une question centrale. Et même entre Français et Allemands, puisque je travaille au sein du Haut Conseil culturel franco-allemand, nous n'avons pas forcément toujours la même vision de la propriété intellectuelle sous l'angle du droit d'auteur et des droits voisins. Nous avons eu des débats très vifs avec les Anglais sur les droits voisins. C'est la construction très lente, très problématique par moments, très fastidieuse, de références communes. Il y a derrière la propriété intellectuelle une culture du droit, qui est une culture du droit essentiellement établie sur le plan européen. Avec des variantes, avec des différences, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, par exemple, les artistes en France sont plus protégés par le droit d'auteur que ne le sont d'autres dans d'autres pays. Donc, nous avons toujours cette caractéristique aussi d'être un peu le dernier précaré de ceux qui défendent, en quelque sorte, le système le plus protecteur. Ça vaut d'ailleurs pour la protection sociale, encore un petit peu maintenant, peut-être pas longtemps, je ne sais pas, mais voilà. Mais ça vaut surtout dans la recherche de trouver une rémunération équitable des créateurs et des diffuseurs. Dans beaucoup de cas, et ça peut être une discussion, et ça a été une discussion avec les Américains, les Américains pensent financer et choisissent de financer les investisseurs, c'est-à-dire ceux qui détiennent les groupes, donc d'où l'existence de majors dans le jeu visuel, de GAFA, avec un système de réduction de leur exposition aux taxes, qui les a permis de construire des empires industriels qui font en quelque sorte leur valeur sur deux choses, la publicité et l'accès au contenu. Et aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu économique majeur de savoir comment, sous l'angle de la propriété intellectuelle, on peut non pas être simplement dans une vision défensive et protectrice, mais comment on peut justement proposer un système alternatif. Les Américains le détestent, et je dois dire que j'ai beaucoup de reconnaissance pour les collègues au Parlement européen dans ce que nous avons imposé à l'époque dans le périmètre de négociation qui était accordé à la Commission sur le traité transatlantique, qui était d'y intégrer fortement la reconnaissance et l'affirmation de la diversité culturelle. Connaissant les personnes qui étaient de l'autre côté de la table de discussion, je savais que ce serait assez violent. Ça l'a été avec le président Hollande, ça a été une discussion de président à président qui a reproché au président français l'existence de cette affirmation européenne et de ce vote. Pourquoi ? Parce que peu de temps avant, le Parlement européen avait refusé un autre traité, le traité ACTA, et ce traité ACTA qui visait à donner un cadre strict aux contrefaçons était en fait un traité qui apportait des normes et un cadre juridique moins efficace que l'Office mondial de la propriété intellectuelle qui est installé à Genève. Je n'ai jamais compris pourquoi les Américains avaient choisi de proposer et d'embarquer le président Obama dans une stratégie qui était absolument vouée à l'échec. Mais j'ai compris qu'à ce moment-là, et c'était là la question multilatérale ou bilatérale, autant on peut dire qu'une discussion entre Américains et Européens peut être, entre guillemets, bilatérale à certains égards, elle est en même temps par nature multilatérale, puisque nous sommes plusieurs pays européens, que chacun défend des intérêts nationaux, et que nous devons nous coordonner pour pouvoir effectivement aller à la table de négociation. Mais à l'époque, ce traité ACTA contre la contrefaçon était dédié à deux objets, la lutte contre le piratage et le téléchargement illégal, et un deuxième objet, la contrefaçon, c'est-à-dire il était directement adressé aux Chinois et cherchait en quelque sorte à constituer une coalition de pays contre la Chine. Je pense que si le multilatéralisme est exploité et utilisé dans un règlement de compte a priori entre pays, on ne peut pas arriver à trouver des règles communes. Et c'est un des éléments qui a donné, je dirais, un échec sanglant au-delà des questions que José va certainement aborder. Mais pour moi, la technique de négociation est souvent, au plan européen, plus faible que celle des Américains. D'abord parce qu'il faut constituer cet accord préalablement. Ensuite, parce que nous avons des différences entre nous, et donc il est toujours important de pouvoir avoir des décisions, voire des inscriptions dans le traité, comme nous l'avons fait à un moment donné, pour nous garantir, dans le cadre de la négociation sur l'accord multilatéral sur les investissements, d'une vision commune. Et enfin, évidemment, il faut être prêt au bras de fer. Et ce que j'ai constaté, c'est que, à la table des négociations, vous avez, du côté américain, 2-3 personnes et une ribambelle d'avocats et de juristes. Et vous avez, du côté européen, beaucoup moins. C'est-à-dire que nous n'avons pas une culture de la négociation qui inclut, dès le départ, le contentieux et le procès, mais vous l'avez dans la vision américaine de l'ensemble, je dirais, des négociations internationales. Ce qui fait que, en matière de propriété intellectuelle, je finis là-dessus, le plus sage dans la négociation sur le traité transatlantique, c'était de dire ça ne doit pas être discuté. Cette question ne peut pas être négociée. Elle est non négociable. Je reviens sur cette question de l'exception. Pour l'instant, c'est une position de force. Alors gardons-la, puisque c'est ce qui nous garantit d'avoir des artistes, des plasticiens, des musiciens, des créateurs, mais en même temps aussi des scientifiques, des chercheurs. Et si nous sommes ouverts, c'est-à-dire si ce qui peut être financé dans le travail des scientifiques doit pouvoir être accessible, je pense en particulier par Internet, en même temps, nous devons toujours pouvoir maîtriser ce que nous pensons devoir soutenir avec des mesures particulières publiques et ce que nous devons pouvoir décider en matière de rémunération du droit d'auteur. C'est la raison pour laquelle je pense que ce combat n'est pas clos. Nous travaillons avec le Haut Conseil culturel franco-allemand depuis plusieurs années maintenant, en l'occurrence depuis 2015, pour ce qui a constitué notre apport aux deux ministères, et nous allons poursuivre ce débat et continuer parce que le risque est lui-même continuel.